It's Morning Edition from NPR News.
Let me hear something to the house.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, nous profitons de l'ouverture de VivaTech, salon européen de la tech. Premier grand rendez-vous post-confinement. Ça se passe à Paris, porte de Versailles. On en profite pour parler de licorne, de GAFA, de souveraineté numérique européenne, notamment avec le patron de Blablacar. Et c'est dans un tout petit instant. Le bruit du monde est au Nigeria ce soir. On a très peu vacciné encore au Nigeria, mais vous verrez quels leviers on active quand les vaccins sont là. Les mêmes que ceux qui ont permis tout récemment d'éradiquer la polio. Ça se passe dans un village que vous allez parcourir avec Lisa Fabian. Le bruit du monde de la suite. Sous les radars, Maria Melkurdi a trouvé des opposants biélorusses en Pologne, des familles épuisées au Mozambique depuis que leurs filles ont été enlevées, et un groupe de musique indonésien, des indonésiennes même, que vous découvrirez, et ça va vous étonner. 18h50, le cinéma en VO, et Corinne Pellissier qui vous fera partager un petit moment de la vie d'un ingénieur du son, celui de Sound of Metal, multi-récompensé. Ça parle d'un musicien qui devient sourd. Imaginez l'importance du son dans ce film. 18h55, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four et ce petit pays, le Nicaragua, qui se transforme en petit Venezuela en pleine déliquescence démocratique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Frédéric Mazella.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de Blablacar. On salue Jérôme Colombin également. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les technologies. Vous avez un podcast, Jérôme, qui s'appelle Monde Numérique. Je le disais, VivaTech ouvre ses portes ce mercredi à la porte de Versailles. Premier salon d'envergure post-confinement. Salon idéal probablement pour montrer des solutions hybrides. Hein, moitié en présentiel, moitié en visio. Si on ne savait pas faire ça dans la tech, alors personne ne saurait le faire. On l'entendra pendant ces 4 jours. Mark Zuckerberg, Tim Cook, le patron de Google Cloud, le président de Microsoft, autant de têtes d'affiche, autant de GAFA qui viennent aussi évidemment pour une opération séduction. Mais Frédéric Mazella, j'ai quand même envie de vous demander, au fond on a l'impression de se poser la question à chaque fois, pourquoi on n'en a pas, nous, de Mark Zuckerberg, de Tim Cook et autres, pourquoi on ne sait pas, nous, créer, ou pas encore, le Google, l'Apple, le Facebook, qui serait made in Europe?
En fait, c'est un écosystème complet. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ça prend du temps, ça prend des années. La Silicon Valley, c'est pas fait en un jour, en fait. C'est des boîtes, des sociétés qui s'étendent à l'international, qui petit à petit deviennent un petit peu plus grandes, et les employés, les premiers employés de ces structures-là, qui ensuite, eux, ressortent de ces structures et créent d'autres sociétés, qui sont financées par des fonds, qui eux-mêmes se sont financés par ce qui s'est passé avant. Enfin, en gros, c'est toute une chaîne qui prend, en fait, plusieurs décennies. Et bon, on a pris un petit peu de retard. Je pense qu'on a eu très peur, nous, dans les années 2000 avec la bulle Internet. C'est-à-dire que les Américains, eux, avaient vu, enfin si on prend cet exemple-là, mais les Américains avaient vu que l'Internet valait quelque chose, mais ils avaient fait un petit peu une anticipation, on va dire, sur la valeur à créer future. Mais nous, depuis la France, on a vu ça comme la preuve qu'en fait, ça valait pas grand-chose. Et en fait, ça a été très dur de s'en remettre. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard à cause de ça. Mais maintenant, on s'y remet. On voit quand même, on a créé là, on a compté sur les 5 dernières années une vingtaine de licornes, dont 5 en 2021. Enfin, ce qu'on appelle les licornes. Oui. Après, c'est juste un indicateur.
Qui valorise à plus d'un milliard, on va y venir d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces énormes GAFA sont nées de rien. Alors il y a toujours cette espèce de symbolique qui est née au fond d'un garage, mais c'est le vrai d'Apple, c'est en partie vrai de Microsoft, c'est vrai de Facebook, c'est vrai de tous ces énormes-là, où on a le sentiment que derrière, quelqu'un leur a fait confiance et leur a donné de l'argent. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous, qu'est-ce qui freine chez nous? Est-ce que c'est ça, justement? Est-ce que c'est la confiance? Qu'est-ce qui freine?
C'est une grande société comme ça, c'est pas une personne.
Non.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui met une étincelle et qui donne une direction. Mais derrière, c'est des centaines et des centaines de personnes qui vont construire un projet commun et qui ont toutes les compétences pour, qui ont parfois déjà vu le film dans d'autres structures, dans d'autres contextes, mais qui sont capables de les porter sur ce nouveau projet-là. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. C'est une histoire de compétences globales aussi de tout un écosystème. On parle de financement, certes, mais il y a aussi ce qu'on appelle les talents. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la décennie qui vient pour la France et pour l'Europe, de manière plus globale. C'est de réussir à attirer les meilleurs talents internationaux pour faire de cette technologie une réalité qui va faire des très grands géants de la tech, comme on voit, dans la mesure où ça permet, après, ça rejoint toute la thématique de la souveraineté numérique.
Mais est-ce que ça veut dire que les licornes qu'on a en France, nous, par exemple, alors on progresse, vous l'avez dit, effectivement, 4 ou 5 créés en 2020
C'est-à-dire révélés, on va dire, ça y est, on a créé des projets
licornisés,
quelques années,
qui aujourd'hui, on va le dire comme ça, qui deviennent licornes en 2021, qui ont passé un seuil. Alors on progresse énormément, même si on ne se compare pas aux Américains, aux Chinois. Les Britanniques en ont 30, par exemple, ce qui est déjà un peu plus au-dessus de nous, sur l'Europe, on va dire, continent. continentale désormais. Est-ce que ça veut dire que c'est parmi ces licornes-là, donc la vôtre ou d'autres, qu'il faut aller chercher le GAFA de demain? Est-ce que c'est envisageable ou pas?
Pas forcément, parce
qu'en fait, on n'a pas envie, ou est-ce qu'on n'est pas dans ce...
C'est une sorte de cycle, mais il y a aussi une histoire de l'âge moyen des sociétés extrêmement valorisées de manière générale. On sait que on a, c'est quasiment la moitié du top 20 des sociétés américaines qui ont moins de 20 ans, alors que le CAC 40, c'est pas du tout le cas. Donc c'est aussi des cycles, et on voit que les cycles de création de valeur, notamment sur les sociétés technologiques, sont extrêmement rapides dans des marchés comme les États-Unis, et donc on voit que c'est aussi une forme de roulement. Donc c'est pas forcément les licornes, ou après on parle aussi de décacornes qui vaudraient ensuite 10 milliards et puis plus, mais c'est pas forcément celles-là qui deviendront les géants technologiques plus tard. Enfin, je souhaite à Blablacar que ça devienne,
mais aussi tant qu'à faire, puisque vous êtes là. On va pas dire le contraire.
Mais c'est-à-dire que il faut le voir comme une compétence globale de tout l'écosystème, avec des gens qui apprennent des métiers. Vous savez, la moitié des métiers qu'on a chez Blablacar aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. C'est des métiers qui évoluent très très vite en termes de gestion des données, en termes de configuration technologique, de plateformes qui sont capables de servir un service dans des dizaines et des dizaines de pays pour des centaines de millions de personnes. Enfin, c'est toute une compétence technologique à acquérir aussi.
Jérôme Colombin, moi j'ai envie de vous poser la question à l'inverse en fait. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'il faudrait que nous soyons capables de créer un équivalent Google à l'européenne? Je vous pose la question parce qu'on est en train de se poser la question en ce moment justement de leur démantèlement, parce qu'ils sont trop gros, trop lourds et trop puissants. Donc est-ce que c'est vraiment ça l'avenir en fait? Est-ce que c'est essayer de créer quelque chose comme ça, encore une fois, à l'européenne, ou est-ce qu'il faut qu'on trouve notre ouvrage à nous, personnel, qui n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé, comme le disait Frédéric Mazella, dans les 10 ou 20 dernières années?
Mais je crois que oui, bien sûr, la réponse est dans la question. On va pas refaire un Google européen. On a essayé 10 fois, enfin plusieurs fois, on n'y arrive pas. On va pas faire un IBM européen. En revanche, il y a plein d'autres belles histoires qui se racontent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces géants-là, ils sont sur des secteurs qui sont devenus stratégiques. Le numérique est devenu stratégique. Du coup, le numérique est devenu politique. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de tout cela, aujourd'hui, on s'en rend compte, il y a le nerf de la guerre qui est la donnée. Mmh. Le traitement de la donnée, il faut de la puissance pour la stocker, pour la traiter, pour maintenant la protéger. Et tout cela, ça pose désormais des questions de souveraineté. Avant, on essayait de créer des grandes entreprises technologiques européennes pour rivaliser en termes économiques. Aujourd'hui, c'est presque plus ça le problème. Le problème, c'est d'acquérir et de reprendre notre souveraineté numérique.
Qu'est-ce qu'on fait, justement? Est-ce qu'on cherche est-ce qu'on force à partager, justement, les données? Est-ce qu'on contraint au partage des données, Jérôme? Est-ce qu'on essaye, justement, de restreindre cette puissance qui, comme vous le dites, effectivement, est devenue tentaculaire, donc politique et géopolitique? Qu'est-ce qu'on fait?
Ben effectivement, c'est un peu visiblement le chemin qui a été choisi par les autorités et françaises et européennes. Parce que vous savez, il y a un adage qui dit, de toute façon, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Mmh. Alors ben nous, on va réglementer. Voilà. Effectivement, mais c'est pas plus mal finalement. Donc il y a des textes qui sont en préparation au niveau européen. Vous avez le DSA pour tout ce qui est problème de data, de vie privée. Vous avez le DMA pour toutes les questions de marché, les questions économiques. Voilà, ça va essayer de poser des grandes règles pour prendre ce qu'il y a de bon dans ces outils et ces services que nous proposent aujourd'hui les GAFAM, les géants américains, et en essayant de se protéger contre le pire, en fait.
Et est-ce que, et après je vais vous laisser partir, Jérôme, parce que je sais que vous êtes pressé, est-ce qu'on sait mettre en valeur, est-ce qu'on sait encourager? On posait la question tout à l'heure avec Frédéric Mazella. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on a tous été frappés dans le journal du dimanche de ce week-end de Tim Cook, qui félicite par exemple Guillaume Rosier pour son Covid tracker. Comme si, au fond, il fallait parfois que quelqu'un d'autre nous dise ce que nous faisons de très bien.
Oui, mais alors ça, je crois que ça marche un peu dans les deux sens. Hein. C'est vrai que Guillaume Rosier, il est en quelque sorte un petit peu ubérisé l'administration. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste récupéré des données qui étaient en libre accès, et puis il a créé des moulinettes pour que ça devienne utile et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc c'est formidable. Il a créé un truc génial. Mais je pense qu'il a été vraiment reconnu aussi en France, et il n'a pas forcément besoin d'être adoubé par Tim Cook.
Est-ce que Frédéric Mazella, est-ce qu'on réglemente trop Jérôme disait, il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui copient et il y a ceux qui réglementent. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que ça l'a été pour vous, par exemple?
Alors, non, ça n'a pas été un frein pour nous. Ce que je peux dire, c'est que quand derrière une réglementation, il y a un positionnement, il y a une envie, il y a aussi des valeurs. Je pense que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Quand on pense à réguler et quand on pense à protéger la vie privée des gens, quand on pense à faire attention à ce que certaines grandes sociétés qui deviennent des grosses machines et qui ont des pouvoirs démesurés par rapport à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, eh bien ne profitent pas de ce pouvoir-là pour asseoir une hégémonie supplémentaire. Je pense qu'on est plutôt dans une défense de valeurs.
Et là-dessus, nous, les Européens, on est plutôt bons.
Oui, voilà, exactement. Et donc, on parlait à l'instant de DMA, donc du Digital Market Act. Ça va dans le même sens. Il y a le DSA aussi, le Digital Services Act, dont le but est de comprendre que, oui, sur ces dernières années, il y a dernières décennies d'ailleurs, il y a eu des grandes sociétés d'un type totalement nouveau qui ont été créées, qui sont portées par le numérique et qui ne sont pas des sociétés européennes ou françaises et qui ont un pouvoir démesuré aujourd'hui qui leur permet de faire des choses absolument inédites à une échelle incroyable qu'on n'a jamais connue. Ce sont des nouvelles sociétés et il faut voir leur implication sur la société pour voir comment justement on est capable de les rendre compatibles avec nos valeurs en Europe.
Et justement, du coup, je vous repose la question, est-ce qu'on démantèle? Est-ce que c'est l'une des options, effectivement? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il faut casser cette grande puissance-là ou essayer d'être meilleur?
Ça va être un sujet trop politique, j'ai envie de dire, pour que je puisse m'avancer là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'implications. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut faire en sorte que l'écosystème reste complet, c'est-à-dire que les petits, les moyens, les grands puissent coexister. Et qu'on n'ait pas un système qui ultra favorise des très très grands qui ont une puissance de frappe colossale par rapport aux petits et que l'innovation justement et les petits puissent toujours naître, y compris made in Europe, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des petits qui sachent naître dans des environnements qui sont différents.
Vous parlez d'écosystème justement. Est-ce qu'on a l'écosystème? On a souvent dit l'écosystème idéal, effectivement, c'est la Silicon Valley. C'est pour ça que c'est là que vont notamment s'expatrier, y compris des Français, pour aller créer leurs entreprises. C'est d'ailleurs très difficile derrière de les faire revenir. Est-ce que cet écosystème-là, cet environnement, désormais, on l'a pas seulement en France, mais on l'a à l'échelle de l'Europe pour que des gens comme vous et les futurs vous, en fait, soient tout à fait à l'aise pour créer leurs entreprises et leurs startups?
Alors on l'a, mais il y a encore des efforts d'uniformisation à faire. Je pense que tout le travail de l'Europe consiste pas forcément à changer certaines régulations, mais à uniformiser déjà, parce que quand on crée une société, enfin je prends souvent l'exemple, c'est créer une société aux États-Unis, c'est courir un 100 mètres. Créer une société depuis la France et l'étendre sur l'Europe, c'est courir un 110 mètres haies. Le problème, c'est qui va le plus vite. C'est assez vite vu. C'est sûr que quand vous avez 27 régulations avec 27 lois du travail, 27 manières de distribuer les stock options, 27 TVA et j'en passe, et des monnaies différentes et des choses. Enfin, tant que c'est pas uniformisé, quand on doit faire grandir une société, parce que la plus grande valeur qui est créée par les sociétés du digital, c'est quand elles arrivent à uniformiser quelque chose de bien et qui marche sur une grande zone.
Mais on a compris ça, on y va.
Moi, je trouve que tout ce qui va dans le sens justement du Digital Market Act ou Digital Services Act, et puis aussi Scale Up Europe qui vient d'être lancé justement hier là à l'Élysée par le président Macron. On voit que on a une prise de conscience. Alors c'est en prévision de la présidence française de l'Union européenne que ces mesures-là de Scale Up Europe ont été annoncées. Mais en tout cas, c'est des recommandations qui visent à optimiser et uniformiser les lois européennes, justement pour favoriser le fait qu'on puisse avoir l'émergence de très grands acteurs technologiques.
Est-ce que c'est compliqué, vous par exemple, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans une entreprise comme la vôtre, il y en a même beaucoup qui s'en vont pour créer leur propre start-up. C'est le principe aussi de ce genre d'entreprise. Est-ce que c'est compliqué de trouver des gens pour travailler pour vous, ou est-ce que la réponse qu'on vous donne précisément, c'est je vais me former à la Silicon Valley, peut-être que je reviendrai après? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, les gens comme vous, considèrent que oui, il y a vraiment quelque chose, un coup à jouer en France ou en Europe?
Il n'y a pas spécialement beaucoup de turnover dans nos sociétés. D'ailleurs, en Europe, il y a une fidélité justement par rapport aux sociétés qui est supérieure à ce qu'on peut constater justement dans la Silicon Valley, où les gens peuvent changer de poste du jour au lendemain. Ça se passe très très vite. Et puis parfois, les gens restent un an ou un an et demi dans le même poste et puis ils changent de société. En revanche,
c'est difficile ou pas?
Ce qui est très difficile de toute manière, c'est effectivement de s'assurer qu'on a tout le temps des gens qui ont les bonnes compétences, qu'on a formé, avec qui on a passé beaucoup de temps. Quand ils s'en vont, c'est forcément une perte pour la société. C'est un gain pour la société d'après, puisqu'il y a une expérience qui est transmise. Mais c'est vrai que, de toute manière, le transfert de personnes entre sociétés est aussi un facteur de croissance et de partage de connaissances qui favorise tout, qui favorise la croissance de tout l'écosystème.
Mais est-ce qu'ils reviennent? Parce que vous aviez essayé à un moment de faire revenir cet
aliment. Ah oui, avec Reviens Léon. Oui, alors c'est ce qu'on lance aussi. Enfin, c'est ce qu'on, la suite de Reviens Léon. Maintenant, ça s'appelle France Digital Talent, puisque je suis aussi co-président de France Digital. Et donc, on a lancé différentes initiatives. Alors l'année dernière, on avait lancé Tech for Values à San Francisco, juste avant le Covid. Et ensuite, là cette année, on a continué avec le guide des bonnes pratiques des sociétés françaises, parce qu'en fait, on a justement des valeurs qui sont représentées très très bien dans le type de société qu'on crée en Europe. On voit que les leaders mondiaux qu'on est capable de créer chez nous, alors je peux en prendre quelques-uns, que ce soit des back market, Insect, ou même la Blackar, ou des sociétés comme ça, on voit que ce sont des sociétés qui ont un ADN et une mission qui est un peu différente, avec des valeurs qui nous ressemblent, qui sont européennes, qui sont françaises, et je pense que c'est ça la force qu'on doit défendre dans le monde de demain par rapport aux autres zones géographiques.
Le numérique vertueux d'une certaine façon, celui des valeurs. J'ai juste une dernière question pour vous, puisqu'on sort doucement d'un confinement, de confinements successifs, même Frédéric Mazella, pour une boîte comme Blablacar par exemple, est-ce que ça a été un très très gros coup dur? Tout le monde est en télétravail, on hésite à se mettre à deux ou à trois dans la même voiture parce qu'on ne sait pas qui est contaminé ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment une pente à remonter?
Alors sur l'année dernière, ce qu'on a vu nous, c'est qu'on a eu une activité globalement à 70% de l'année d'avant, donc c'est pas si dramatique que ça. Et le covoiturage s'en tire plutôt très bien, puisque justement ça minimise les contacts. Enfin, évidemment, il y a moins de chances de croiser le virus quand vous êtes 3-4 dans une voiture que 100 ou je sais pas combien dans des moyens de transport beaucoup plus massifs. Donc il y a cet avantage-là pour le covoiturage. Et à côté de ça, ça redémarre tout de suite. C'est-à-dire que proposer une place en tant que conducteur demain et que le passager la trouve dans une demi-heure fait que vous avez un service extrêmement souple, extrêmement rapide. Donc on a un rebond très rapide sur le covoiturage qui est plutôt avantageux, surtout que c'est des voyages plutôt domestiques et de loisirs. Donc ça donne quelques avantages dans le domaine du transport au covoiturage par rapport à l'époque.
Et à suivre donc notamment pour...
On a un très fort rebond là actuellement.
Pour ces vacances-là sont en train d'arriver. Frédéric Mazella, je vous remercie beaucoup. Merci vraiment
pour
votre passage dans Un jour dans le monde. On salue Jérôme Colombin. On rappelle ce podcast qu'il lance et qui s'appelle Monde numérique.
Le 18-20, Fabienne Saint-Hès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Nigeria, où on a très peu de vaccins, mais pour que ça marche, en tout cas, on utilise les mêmes relais, les mêmes acteurs que ceux qui sont parvenus à lutter et à éradiquer même la polio. Vous verrez exactement comment ça marche. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Mariam El Kurdi.
Oui, on ira notamment à Varsovie, en Pologne, où tous les jours, des manifestants biélorusses crient leur sentiment de révolte contre le régime Loukachenko, un cri retentissant, vous l'entendrez.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier.
Oui, ça sera Sound of Metal, l'histoire d'un musicien qui devient sourd et qui a valu un Oscar à un Français pour son travail sur le son.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. En Amérique centrale, le petit Nicaragua dérive vers le totalitarisme façon Venezuela et tout le monde s'en fiche.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Autour de la planète n'est pas fini. Il passe par Tassin, la demi-lune, j'adore. Avec Woodkid, évidemment. Highway 27.
Shoulder blades locked to the leather seat. and confused. This love is counterfeit. So drive away.
Le bruit du monde ce soir est au Nigeria, 200 millions d'habitants, 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca pour l'instant dans le cadre du programme COVAX. Et vous allez voir quand même comment ça s'organise. Au nord du pays, à Kano, les autorités traditionnelles et religieuses ont déjà été impliquées dans les campagnes de vaccination contre la polio. Si bien que la maladie a été éradiquée, eh bien ce sont les mêmes relais, les mêmes acteurs qui sont mis à contribution face au Covid. Et le reste, c'est Lisa Fabian qui raconte.
Ils sont une centaine assis sur des chaises en plastique. Les femmes, la tête recouverte de voiles colorées d'un côté et les hommes coiffés de leur chapeau traditionnel Haoussa de l'autre. Tous attendent de recevoir leur deuxième injection du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Ils ont reçu la première dose en priorité en tant qu'aspirants au pèlerinage du Hajj. Face à eux, les officiels sont venus donner l'exemple sous l'œil du gouverneur de l'état de Kano. Abadan Bata, le secrétaire exécutif de l'agence publique en charge de la santé des pèlerins.
En collaboration avec le ministère de la Santé, notre agence a demandé 4500 vaccins en prévision du pèlerinage du Hajj. Et en raison de la forte demande, nous avons même obtenu 1000 vaccins de plus.
L'Arabie Saoudite vient finalement d'annoncer que seuls 60 000 résidents vaccinés seraient autorisés à effectuer le Hajj au mois de juillet. Pour la deuxième année consécutive, plus de 70 000 Nigérians devront donc renoncer à se rendre à la Mecque, comme Aliou Oumar, qui a économisé pendant 5 ans pour se payer ce voyage.
En fait, on devait déjà y aller l'année dernière avec ma mère. J'ai payé 2 400 € pour moi et 2 600 € pour ma mère. Je sais à quel point il est important de se faire vacciner. Et d'ailleurs, même si ce n'était pas pour aller à la Mecque, je me serais quand même fait vacciner.
Les autorités sanitaires de l'état de Kano admettent que des inquiétudes subsistent au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Tijani Hussein, le secrétaire exécutif du département de la santé primaire dans l'état de Kano.
C'est un nouveau vaccin et nous voyons beaucoup de méfiance. Les gens se demandent s'il est sûr, s'il est efficace. Au Nigeria, nous avons reçu des doses d'AstraZeneca qui se conservent plus facilement. Pour assurer la chaîne du froid et la distribution, nous utilisons les structures qui ont été mises en place pendant la campagne contre la polio.
La campagne de vaccination contre la polio avait déjà soulevé d'importantes suspicions au début des années 2000, au point de ralentir considérablement l'éradication de la maladie au Nigeria. L'état de Kano a aussi été marqué par la mort de 11 enfants après des essais cliniques illégaux contre la méningite menés par le laboratoire Pfizer en 1996. Des souvenirs douloureux qui ont marqué les esprits. Ouma, presque 70 ans, est venu se faire vacciner principalement dans l'optique du pèlerinage.
Je prie. Certains disent qu'on ne peut vivre que 5 ans après avoir reçu ce vaccin, mais ça ne me fait pas trop peur. Je connais quand même un voisin qui a décidé qu'il ne ferait pas son pèlerinage, car il refuse d'être vacciné.
La vaccination peut être d'autant plus difficile à accepter que la plupart des personnes interrogées assurent n'avoir jamais été confrontées au Covid, à l'image d'Oumara.
Moi, j'ai confiance dans le vaccin. J'ai juste eu un peu de fièvre, une migraine, mais là, ça va.
Et vous connaissez des gens qui ont eu le Covid ?
Non, même pas une seule personne.
Mais dans cette société conservatrice et imprégnée d'islam, la parole des leaders traditionnels pèse lourd. Le puissant émir de Kano et son conseil sont associés depuis près de 20 ans aux campagnes de santé. Et les religieux sont tout aussi incontournables, rappelle le cher Mohamed Nasir Adam qui préside le conseil des imams de Kano.
Beaucoup de gens se méfient de la vaccination, mais grâce à notre appui, nous aidons à changer les perceptions. Les leaders religieux sont partout, dans chaque circonscription, dans chaque quartier. Les imams appellent à accepter la vaccination contre le Covid-19 dans leurs sermons ou lors de cérémonies religieuses. Si nous n'apportions pas notre soutien, ce serait impossible de mener une telle campagne, mais grâce à la participation de tous les acteurs religieux, on peut y arriver.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. L'État de Kano a reçu 219 000 doses de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19. Celles-ci ont toutes été écoulées selon les autorités locales, mais seule une infime portion de la population est concernée dans une région qui compte près de 10 millions d'habitants.
Lisa Fabian à Kano, cette toute petite portion du Nigeria. Merci beaucoup, à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars. Et c'est Mariam El Kurdi. Et c'est d'abord en Pologne que nous allons.
Oui, devant le bâtiment de la Commission européenne à Varsovie, où tous les jours, des manifestants essayent de se faire entendre. Et pour cela, ils n'hésitent pas à se dénuder le haut du corps un peu façon fémène, et surtout à crier très très fort. Voilà, les messages qu'ils veulent faire passer sont aussi marqués au feutre noir sur leur poitrine. L'inscription 56, par exemple, est dessinée sur le décolleté de Jana Szostak. Cela représente la part de bois importée par la Pologne en provenance de la Biélorussie. Jana Szostak a 28 ans, elle est artiste. Elle est devenue une figure du mouvement de protestation des opposants biélorusses basé en Pologne. Ce mouvement, vous le savez, dure depuis un an et la réélection contestée de Loukachenko qui dirige l'ancienne République soviétique depuis 1994. Jana Szostak explique que c'est un cri de désespoir, de colère, d'impuissance face à ce qui se passe dans son pays. J'espère, dit-elle, que ce cri, notre voix, arrivera jusqu'au Parlement européen. Ce cri du cœur connaît une vive popularité sur les réseaux sociaux, notamment celui qui a suivi l'épisode de l'interception par le régime Loukachenko d'un avion de Ryanair le 24 mai dernier pour arrêter le journaliste dissident Roman Protasevich et sa compagne. Ces cris sont désormais entendus bien au-delà de Varsovie. La semaine dernière, l'acteur polonais Bartosz Bielenia a surpris tout le monde au Parlement européen de Strasbourg quand il a lancé son cri en soutien au peuple biélorusse juste après avoir reçu le prix du cinéma européen Luxe.
Jedna minuta okrzyku dla wszystkich na rzecz rewolucji.
Et avant de lancer lui aussi son cri, il a rappelé que dans le pays voisin du sien, la Biélorussie, plus de 30 000 personnes sont torturées, 476 emprisonnées pour leur engagement politique.
Direction maintenant le Mozambique avec un autre cri d'alarme.
Un cri venant de l'ONG Save the Children. Au moins 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par les groupes djihadistes qui terrorisent le nord-est du pays depuis plus de 3 ans. Ces groupes, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, multiplient les attaques dans la province pauvre du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Noura a 42 ans, elle a 4 enfants, elle raconte l'enfer qu'elle a connu l'an dernier lors d'une attaque d'ampleur dans sa ville à Palma. Ils ont pris nos filles et les ont enfermées dans différentes maisons, raconte-t-elle. Et ils nous ont prises et enfermées dans une autre maison. Plus tard, ils sont revenus et ont pris les filles qui les intéressaient. Noura et son mari ont donc réussi à s'échapper avec 3 de leurs enfants, mais ils n'ont jamais revu leur fille de 14 ans. Selon l'organisation Save the Children, l'enlèvement d'enfants est devenu une tactique nouvelle d'une régularité alarmante de la part des groupes armés impliqués dans le conflit.
Allez, Mariam, on termine en musique avec un trio de jeunes indonésiennes pleines de courage et pleines de vitalité aussi.
3 jeunes filles tenues traditionnelles, elles portent le voile, une longue tunique noire, mais il n'y a que leur tenue qui est traditionnelle. Elles ont décidé d'échapper à leur destinée qui leur était toute tracée, se marier, devenir femme au foyer dans leur village, ce qui les fait vibrer. Et Fabienne, c'est ça. La scène, la musique est pas n'importe laquelle, vous reconnaissez bien sûr. Du heavy metal qu'elles jouent comme de vrais pros. Elles s'entraînent dans la capitale, Jakarta. La batteuse s'appelle Eus Siti Aisha, elle a 20 ans. Dans notre village, il est rare que des filles jouent de la musique métal. Beaucoup de filles de notre âge sont déjà mariées ou fiancées. Nous avons essayé d'obtenir la confiance de nos parents en nous produisant, entre autres, sur des chaînes de télévision. Parce que lorsque nous passons à la télé, ça donne de la fierté à nos parents. Alors il a fallu convaincre des parents qui tenaient des discours du type « lire et étudier ne sert à rien », mais elles ont réussi. Leur premier titre, sorti il y a 3 ans, School Revolution, où elles critiquent un système scolaire indonésien trop autoritaire, est un véritable succès, tout comme leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Elles sont allées jusqu'aux oreilles du bassiste de Nirvana, Krist Novoselic, ou encore du guitariste des Red Hot Chili Peppers, Flea. Ils leur ont fait des louanges.
Eh ben écoutez, on les invitera à la prochaine fête de France Inter. Ça se passe juste en face de la maison de la radio. Mariam El Kurdi, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Vous partez avec Sarah Vaughan, la version 1949 de Summertime.
garden is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby.
Summertime sur France Inter. Allez, cinéma, c'est mercredi.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous cinéma du mercredi en VO, Corinne, et en langue des signes, avec un film cette semaine qui mixe comme un autre, comme aucun autre plutôt, les images et le son. C'est aujourd'hui que sort Sound of Metal, avec Riz Ahmed dans le rôle d'un musicien qui devient sourd, récompensé aux Oscars, aux BAFTA. Le film a été mixé par un ingénieur du son français, il s'appelle Nicolas Becker, et vous êtes allé le rencontrer.
Exactement, alors je vous emmène avec lui dans son studio du 11e arrondissement de Paris. C'est ici que Nicolas Becker mène la plupart de ses expériences, hein, il faut bien appeler les choses par leur nom. Il est bien plus qu'un ingénieur du son, il est une sorte d'anthropologue qui observe pendant des mois, dissèque son sujet avant de produire le moindre son. C'est un savoir-faire pas très répandu et qui fait qu'on se l'arrache partout dans le monde. Il a travaillé sur Gravity avec Alfonso Cuarón, se prépare à démarrer aussi le prochain film d'Alessandro Iñárritu, et vient donc de signer le son et la BO de ce film étonnant qui sort sur les écrans aujourd'hui autour d'un musicien de métal qui perd l'audition.
You sound great.
Yeah, right.
What? You tell me you weren't feeling it? You were in it.
We don't need to put them all out.
I know, but we just need to film
them. Your hearing is deteriorating rapidly.
You have to understand your first responsibility.
Le film s'appelle Sound of Metal par un réalisateur américain, Darius Marder. C'est un premier film autour d'une histoire assez rugueuse. Le héros, Ruben, joué par Riz Ahmed, va sombrer très vite dans toutes sortes d'addictions, intégrer par la suite un centre de désintoxication spécialisé pour les malentendants. C'est une situation qu'il a du mal à accepter. Et là où le film vous cueille véritablement, c'est grâce au son, vous allez ressentir son quotidien exactement comme lui. Ce que ça fait d'avoir des acouphènes, de ne pas s'entendre parler, de ne pas entendre les autres. Tout ça venait de manière très progressive, du vacarme, d'un concert de métal jusqu'au silence le plus absolu.
Et alors c'est ici qu'intervient donc Nicolas Becker dans son studio. Et ce qui est intéressant dans Sound of Metal, Corinne, par rapport aux autres films, c'est qu'il a été écrit pour le son.
Voilà, beaucoup de recherches en amont, beaucoup de travail collectif. Le réalisateur, qui a un peu la même approche de travail que Nicolas Becker, a voulu que tout dans l'histoire soit hyper précis, crédible. Les comédiens ont appris à jouer de la musique, rien n'est en playback. Pour le son, eh bien, ils ont travaillé autour des sensations. Leur objectif, c'était vraiment de rendre le film le plus immersif possible. Au vu des récompenses, on peut dire que c'est réussi. Des BAFTA aux Oscars, tout le monde a salué cette performance, la prouesse technologique, avec l'utilisation même de micro. Micro totalement nouveau, inventé exprès pour le tournage par Nicolas Becker. Bref, c'est une méthode qui a fait ses preuves et qu'il partage avec nous.
Souvent, les films au niveau du son qui reçoivent des prix, c'est des films avec des grosses explosions, c'est des films très impressionnants, c'est des films où on en met plein les oreilles et plein les yeux. Et là, non. Je commence toujours par expérimenter. Quelqu'un qui est sourd, c'est quoi? Alors, je fais un peu de recherche, je mets des bouchons d'oreille, je me mets dans l'eau, je vais dans des chambres anéchoïques, d'essayer de comprendre comment on peut percevoir le son quand les tympans marchent plus, d'être sur scène et de ressentir ce que c'est d'être au milieu pendant un concert de rock. Donc c'est pour ça que l'approche, elle est assez minimale. J'ai pas passé des mois à essayer de trouver le son de quelqu'un qui est sourd. Je vais juste partir des informations les plus simples, c'est-à-dire si on entend par les tissus et les cavités osseuses, je vais fabriquer des micros pour aller enregistrer, tout simplement reproduire a priori ce qui se passe. Mais par contre, je vais pouvoir passer peut-être 2 mois sur la construction de l'arc, de comment ça évolue dans le temps pendant le film. Et ça, ça m'intéresse plus que l'effet lui-même.
C'est passionnant tel qu'il le raconte Nicolas Becker.
Et le film
vraiment,
est génial.
Et ça donne vraiment très très envie d'y aller. Ça s'appelle Sound of Metal, signé Darius Marder, au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean Marfour. Jean-Marc, ce soir, vous voulez attirer notre attention sur un petit pays dont on parle rarement, voire jamais, le Nicaragua, en Amérique centrale. Son président, Daniel Ortega, est en pleine dérive dictatoriale, un peu à l'image du Venezuela de Nicolas Maduro, et la communauté internationale commence tout juste à s'en inquiéter. C'est votre Monde d'après.
Oui, c'est un peu un cas d'école, une évolution progressive d'un régime se prétendant révolutionnaire de gauche, au départ, vers une dictature tyrannique qui concentre tous les pouvoirs. Ça rappelle un peu, en effet, le Venezuela. En plus petit, hein, le Nicaragua, en plein cœur de l'Amérique centrale, ne compte que 6,5 millions d'habitants. Daniel Ortega a 75 ans, il a déjà passé 25 ans au pouvoir. À l'automne prochain, il se présentera à nouveau. Il a trouvé une solution simple pour gagner. Il fait arrêter tous les autres candidats potentiels, ça c'est sûr, ça marche. Ces derniers jours, 13 dirigeants politiques ont été embastillés, dont 4 postulants à l'élection. Arrestation la plus emblématique, Cristiana Chamorro, qui a pour vilain défaut aux yeux du pouvoir d'être la fille de sa mère, Violeta Chamorro, ex-présidente dans les années 90, ancienne rivale d'Ortega. 3 autres candidats à la primaire du principal parti d'opposition de droite ont également été arrêtés. Et quant aux autres partis, ils ont été déclarés illégaux. Là aussi, c'est simple et efficace. Ça ne s'arrête pas là. Les détentions arbitraires se multiplient. Les médias indépendants font l'objet d'intimidations. Les seuls rassemblements autorisés sont ceux du pouvoir. En fait, le tournant date de 2018, depuis qu'une vague de contestation sociale a été sévèrement réprimée, avec toujours le même alibi. Vous êtes manipulé par les États-Unis.
Et donc, au départ, tout vient d'un mouvement révolutionnaire, celui de la fin des années 70.
Oui, en 1979, le sandinisme renverse la dictature sanglante des Somoza, dictature soutenue par Washington. Ortega en est alors le commandante, un mélange du cubain Che Guevara et du vénézuélien Hugo Chavez avant l'heure. Battu dans les urnes par Violeta Chamorro, donc en 1990, Ortega revient en 2006. Et depuis, c'est la dérive vers un pouvoir de plus en plus centralisé, dictatorial, avec un vrai côté stalinien. La meilleure illustration en est sa propension à bâillonner ses proches. Ces derniers jours, il a fait assigner à résidence 4 de ses compagnons de route historiques, notamment Dora Maria Teles, et il partage le pouvoir avec qui ? Avec sa femme, Rosaria Murillo, qui a été nommée vice-présidente. Il a aussi fait modifier la Constitution pour rester au pouvoir quasi indéfiniment, et fait adopter une multitude de lois scélérates, en apparence à raison des jolis noms, lutter contre les fake news, protéger la souveraineté nationale, réguler les agents de l'étranger, défendre les droits des peuples. Tout son décache-sexe pour étouffer toute forme de contestation. Et pendant la pandémie, Ortega a fait dans l'obscurantisme, dissimulation des chiffres, intimidation à l'encontre des médecins, meeting de ses partisans au mépris des règles de distanciation sociale, un peu façon extrême droite de Bolsonaro au Brésil. Il manque plus que des repentances publiques, des procès publics des anciens camarades de lutte désavoués, pour que la boucle façon Staline soit bouclée.
Et donc, Jean-Marc, personne ne dit rien.
Donc, c'est timide. Seuls les États-Unis ont imposé de vraies sanctions aux proches du pouvoir, mais bon, la légitimité de Washington est faible vu ses antécédents dans la région. Hier, pour la première fois, l'organisation régionale, l'OEA, l'Organisation des États américains, a exigé la libération des prisonniers politiques au Nicaragua. Mais ce n'est pas allé plus loin, notamment en raison de l'abstention du Mexique et de l'Argentine, de l'opposition aussi de la Bolivie. 3 gouvernements étiquetés de gauche qui se sentent sans doute une forme de solidarité avec l'ex-révolutionnaire sandiniste. Il faut mesurer combien le sandinisme a longtemps constitué un emblème pour une partie des gauches sud-américaines et même européennes. Mais vu la dérive d'Ortega, Mexico et Buenos Aires ne se grandissent pas. C'est trop facile de dénoncer les dérives de droite au Brésil et en Colombie si dans le même temps on n'est pas prêt à dénoncer aussi les dérives pseudo-révolutionnaires au Nicaragua ou au Venezuela. Soit dit en passant, le Venezuela de Maduro est évidemment le premier soutien du Nicaragua d'Ortega. Quant à l'Europe, vous me direz, mais elle reste elle aussi assez timorée. Il y a quelques condamnations de principe de la part du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ou de l'espagnol Pedro Sanchez. Mais il y a peu d'actes. Il y a quelques mois, la célèbre militante des droits de l'homme Bianca Jagger, ex-madame Mick Jagger, nicaraguayenne d'origine, avait sollicité Emmanuel Macron sur le sujet. Le Nicaragua est petit, c'est vrai, c'est un confetti comparé aux géants chinois ou russes, où les atteintes aux droits de l'homme sont d'une autre ampleur quantitative. mais c'est pas une raison pour fermer les yeux.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, bien sûr à demain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Marion Lourd et puis le téléphone sonne. À tout de suite, ne bougez pas.